Voilà, bonjour chers frères et sœurs. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui est le péché. Nous allons essayer ensemble de définir, de contourner ce sujet, de l'aborder. C'est un sujet très important parce que le péché, on y est tous confrontés, même si on a été sauvés par grâce. Mais le péché est caractérisé par toute forme de désobéissance à la loi parfaite de Dieu. Donc le péché est universel. On est né dans le péché. La Bible nous dit, c'est David qui le dit, « Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Et la parole biblique, qui nous montre que nous sommes tous nés pécheurs, va à l'opposé de la pensée du monde d'aujourd'hui, qui a tendance à enseigner, à croire du moins, que l'homme naît bon, l'homme naît avec certaines capacités, et puis la société a fait de lui ce qu'il est, donc a perverti l'homme. Et en réalité, il y a du bon dans l'homme. Donc ça, c'est l'enseignement du monde. Mais la Bible dit l'inverse. L'homme naît mauvais, il naît pécheur, et il a besoin de Christ pour être régénéré. Il y a une distinction à faire, peut-être, avant d'aborder le premier point, c'est que le péché n'est pas simplement caractérisé par des actes mauvais, parce que quand on parle du péché, on pense tout de suite à des choses qu'on commet, comme vol, mentir, des mensonges, etc. Des mauvais actes. Mais le péché, c'est aussi un état. C'est-à-dire que nous sommes pécheurs. Quand nous ne connaissons pas le Seigneur, nous sommes privés de Dieu. Donc on commet des péchés par nos pensées, par nos actes, mais on est pécheur par le simple fait qu'on n'accomplit pas la loi parfaite de Dieu. Donc, tous sont péchés, dit la Bible, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. En croyant en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, nous quittons le stade de pécheur pour devenir au stade de justifié. Donc, nous ne sommes plus pécheurs. La Bible dit dans Romains 5:8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, et il nous a justifiés. Maintenant, nous sommes des justes. » Alors, que se passe-t-il par rapport au péché? Bien, il peut arriver à un juste de commettre encore des péchés. Donc, le problème du péché en lui-même, nous continuons à y être confrontés. La victoire décisive a été remportée, car Christ a fait de nous des justes. Nous sommes justifiés par la foi. Mais, au cours de notre vie chrétienne, bien que justifiés, bien que sauvés par grâce, nous rencontrons encore ces difficultés par rapport au péché et il va falloir aller de l'avant et triompher dans certains domaines. Alors, on va le voir en quatre parties. Première partie, on va parler des conséquences du péché. Ensuite, nous parlerons de ce que nous devons faire par rapport au péché. Troisièmement, ce que Jésus a subi à cause du péché. Et enfin, l'action de Dieu sur le pécheur et sur le péché. On va voir tout ça. Mais d'abord, première partie ce matin, les conséquences du péché. Et on va voir quelques points. Donc un premier point, le péché qui produit la convoitise. Romains chapitre 7, verset 8. Alors nous ferons plusieurs lectures dans la parole de Dieu concernant ce sujet. Romains chapitre 7, verset 8 tout d'abord. Et le péché, nous dit ce texte, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Donc on peut résumer le verset en disant le péché produit la convoitise. La convoitise, c'est ce désir immodéré de vouloir posséder des choses que nous n'avons pas ou des choses même interdites. Bon, quelques exemples dans la parole. Akab, le roi, avait la convoitise de la vigne d'un dénommé Naboth. Et alors il y pensait, il disait « Moi j'aimerais bien avoir cette vigne. » Et il a essayé de l'acheter, puis Naboth n'a pas voulu. Alors il la convoitait quand même, il voulait la voir, et puis il s'en rendait malade, au point que sa femme lui a dit « Mais tu es roi, et tu peux même pas te procurer cette vigne. » Et puis ils ont fait lapider Naboth, et ils ont récupéré la vigne. La convoitise donc pousse à des actes mauvais, des actes de péché. On a un autre exemple, aussi dans l'Ancien Testament avec Amnon, un des fils de David, qui est tombé amoureux de d'une de ses, de ses sœurs, Tamar, et conseillé par un ami, alors il y a eu toute une intrigue pour attirer Tamar à part dans sa chambre, et ainsi il a simulé une maladie. Il se rongeait, il se tourmentait, dit la Bible, jusqu'à se rendre malade. Il convoitait cette jeune fille, et bien ça l'a poussé au péché, puisqu'il l'a mis à part dans la chambre, et il a couché avec elle. Donc, la loi nous ordonne, tu ne convoiteras point, parce que Dieu veut nous montrer que la convoitise va nous pousser au péché. Et Jésus va même plus loin en disant, lorsque quelqu'un, même ne serait-ce que regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis le péché dans son cœur. Donc la convoitise, c'est le péché. Et l'entretien de mauvais désirs va produire du mal en nous et autour de nous, va nous pousser à des actes mauvais. Alors c'est vrai que, en tant qu'être humain, nous désirons souvent ce qui nous est interdit, ce qui est défendu. Et ça, c'est depuis l'origine avec Adam et Ève qui ont voulu avoir justement l'arbre, le fruit de l'arbre qui était interdit. Dieu avait dit, vous pouvez prendre de tous les arbres du jardin. Donc il y avait la quantité, il y avait de quoi manger, c'était de la qualité, il y avait tout, sauf un seul. Et qu'est-ce que Ève avait envie? C'était de goûter justement cet arbre qui était défendu. Donc c'est comme ça que Satan l'a attiré, et depuis c'est dans le cœur de l'homme, il suffit d'interdire pour que, en contrepartie, il y ait ce désir en nous de vouloir goûter à ce qui est interdit. Le péché est là, et il nous fait désirer ce que nous n'avons pas. Or le Seigneur nous demande de renoncer à toutes ces choses-là et de nous contenter de ce que nous avons. Je voulais lire un texte aussi dans Romains chapitre 6, et au verset 12, pour vous montrer ceci. Romains, chapitre 6, verset 12. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. » Et Paul nous dit « Et n'obéissez pas à ses convoitises. » Donc Paul nous demande ici de prendre position vis-à-vis de ces tentations, de ces convoitises qui nous font désirer ces choses que nous n'avons pas. Maintenant, comment pouvons-nous résister à cette convoitise? La Bible nous répond en étant rempli du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Les désirs de la chair, ils sont là, mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est comme ça que nous aurons la victoire. Parce que si nous voulons ne pas accomplir les désirs de la chair, il n'y a pas d'autre solution. Tant que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous sommes toujours sujets à aller dans ces convoitises. Donc il nous faut vraiment rechercher cela, marcher selon l'Esprit, avoir toute la plénitude du Saint-Esprit en nous, et c'est cela qui va nous délivrer de ces convoitises. Deuxième point, le péché produit aussi la culpabilité. Alors ça, c'est David qui écrit au psaume 51 et au verset 5, « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Alors j'ai souligné, mon péché est constamment devant moi. Donc ce qui signifie que la faute, il ne pouvait pas s'en dégager. Français courant, la Bible en français courant nous dit, ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. Vous voyez la culpabilité, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et puis la semeur nous dit, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Donc le péché ici, deuxième conséquence, va créer un sentiment de culpabilité qui va dire à notre conscience ce que tu as fait mal, et notre conscience ne va pas être tranquille. Le péché, c'est ça. Il y a cette petite voix qui va nous dire, voilà, tu as fait tel acte, tu as fait telle chose, c'est mauvais, et tu le sais. Et si nous étouffons cette voix de la conscience, à ce moment, bien notre conscience va s'affaiblir, on va continuer dans le péché, on va peut-être même pécher davantage, et aller toujours plus loin dans les excès. Alors on aura toujours des excuses, mais oui, mais tout le monde le fait, etc. Ça, c'est étouffer la conscience. Mais la culpabilité est là. La culpabilité est là. Comme David dit, mon péché est constamment devant moi. Alors, si nous écoutons la voix de la conscience, au contraire, eh bien, cette conscience va être affinée, et non seulement nous allons pouvoir être délivrés de ces péchés, mais des péchés encore plus subtils vont être débusqués, puisque la conscience affinée va nous montrer, oui, mais il y a encore ça qui est à améliorer, qui est à changer dans ta vie, et le Seigneur, pas à pas, va nous montrer. Et c'est dans cette dimension-là que nous devons aller, frères et sœurs. Donc, les péchés grossiers, déjà, avoir pris des victoires, et puis après, il y a des péchés plus subtils, dans lesquels nous devons aussi aller plus loin avec cette conscience affinée. Je prends un exemple très simple, comme le sculpteur, lorsqu'il commence son ouvrage, il prend un gros bloc de marbre, il va commencer par casser des gros morceaux pour obtenir à peu près la forme qu'il veut, et puis ensuite, il va changer d'outil pour aller plus fin dans le travail et arriver à ce qu'il désire. Donc, ça va s'affiner progressivement. C'est un petit peu comme cela bien que nous devons procéder. Le péché laisse une marque indélébile. J'ai un texte dans Jérémie chapitre 17 et au verset 1er qui nous le montre. Jérémie 17, verset 1. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc c'est un péché qui est gravé en profondeur, c'est quelque chose qui ne s'enlève pas, qui va témoigner contre nous. Le péché est là et rien ne peut l'effacer, rien dans ce monde du moins. C'est pas par nous-mêmes en se disant « je n'ai pas péché » par exemple, ou « je n'ai pas fait cela », c'est pas ça qui va l'effacer. Au contraire, on voit bien que ce péché est visible, il est écrit avec un burin de fer, en tout cas Dieu le voit très clairement. Et tant qu'il n'est pas réglé, le péché nous accuse et nous culpabilise. On peut même en perdre le sommeil et être très malheureux à cause du péché. Troisième conséquence du péché, notre texte dans la parole, c'est le psaume 38 et au verset 4. « Il n'y a rien de saint dans ma chair. » À cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Il n'y a plus de vigueur dans mes os. Et ici, le mot original, donc pour vigueur, vous avez peut-être une autre version sous les yeux, comme la version Colombe, c'est le mot paix, le mot shalom en hébreu. Il n'y a plus de paix, ou de bonne santé, ou de prospérité. Voilà ce que signifie shalom. Le péché crée donc premièrement, l'abattement, puisqu'il agit sur notre être entier pour nous décourager. Il n'y a plus de vigueur, on n'a plus envie de rien faire. Le péché va enlever notre enthousiasme, va créer de la fatigue, va dominer sur nous comme un fardeau, comme un poids. Et deuxièmement, le péché enlève la paix. Shalom en hébreu, donc. Et la paix qui nous vient de Dieu nous est ôtée. On est dans l'angoisse, on se sent perdu, agité. Notre conscience est troublée, vous voyez, tout ça c'est les conséquences du péché quand même. Quand on est mal à l'aise, eh bien, on ne peut pas avancer dans de telles conditions. C'est pourquoi il n'y a plus de vigueur, il n'y a plus d'avancée. Quatrième conséquence du péché, dans Ésaïe 59, verset 2, il est question que le péché nous cache la face de Dieu. « Ce sont vos crimes, dit la parole, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors si on regarde attentivement ce verset, il y a déjà rien que trois conséquences au péché dans ce verset. La première, c'est que le péché nous sépare de Dieu. Ce qui s'est passé avec Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, eh bien ils ont connu cette rupture. Et avant ils pouvaient parler Dieu avec Dieu face à face, etc. Ils avaient une grande liberté et à cause du péché, ils ont été séparés, exclus du jardin. On a chanté un chant aussi, où il y a eu une prière, je ne sais plus, oui, je crois que c'était dans la présentation de la Sainte Cène, où il a été question de que Jésus a porté nos péchés et que ce texte a été cité, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À un moment donné, Jésus a senti cette séparation avec Dieu quand même. C'est un texte un petit peu mystérieux, parce que la Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, toujours unis, eh bien à la croix, au moment précisément où Jésus a été fait péché pour nous, la Bible dit que Jésus a vécu cet abandon de Dieu, cette séparation si vous voulez, cette séparation qui fait que Dieu ne peut avoir aucune communion avec le péché, et en même temps Jésus a été fait péché. Vous voyez, il y avait quelque chose de paradoxal, d'antagoniste, et à un moment donné, il y a eu cette séparation, mais qui... On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais à la fin, en tout cas, c'était réconcilié, puisque Jésus a dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Mais en tout cas, c'était un moment terrible pour Jésus, et chaque péché commis, c'est la même chose, frères et sœurs. ça va créer une séparation entre nous et Dieu. Chaque péché commis va créer un mur qui va nous donner, nous, l'impression que Dieu est lointain, que Dieu ne nous parle plus, qu'il est éloigné. Mais en réalité, ce texte nous dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Donc nous devons le considérer aussi pour nous. Et quand nous avons péché, bien, il nous faut, on le verra plus tard, mais il nous faut prendre certaines dispositions pour justement faire disparaître cette séparation. Aussi, toujours dans ce texte, la Bible nous dit que les péchés nous cachent la face de Dieu. Le péché donc a une action sur notre vision, nous ne voyons plus Dieu, nous ne voyons plus la main de Dieu, au contraire, nous sommes contaminés par le mal. Et aujourd'hui, dans ce monde, il suffit de regarder un petit peu la télévision, Internet, les journaux, on voit beaucoup que le mal, je veux dire, est diffusé à grande échelle. Et ces choses-là, eh bien, si elles rentrent dans notre cœur, si nous les laissons germer en nous, ben, la Bible nous dit, vos péchés vont vous cacher sa face. Et finalement, nous n'allons plus voir Dieu, nous allons voir que les choses négatives, si bien que certains arrivent à voir toujours ce qui va mal, ce qui ne va pas, ils sont contaminés par ces choses, par un défaitisme, par le péché. Mais ils ne voient plus la main de Dieu, ils ne voient plus la face de Dieu, ils ne prient plus, ils ne passent plus de temps avec le Seigneur. Ben, le péché a fait son travail, on a laissé la porte ouverte, et petit à petit, ben, maintenant Dieu, on ne le voit plus, on n'entend plus sa voix, on ne ressent plus sa présence. Le péché, autre conséquence dans ce texte, le péché empêche l'exaucement de nos prières. Il est dit à la fin, il l'empêche de vous écouter. Et ça aussi, c'est une des conséquences de nos péchés, car celui qui commet le péché mais qui prie et qui ne veut pas se repentir, eh bien Dieu n'écoute même pas sa prière et il n'y répond dans aucune manière. Donc pourquoi Dieu aurait-il, enverrait-il une bénédiction, donnerait-il un exaucement à une personne qui vit en opposition à sa parole et qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas finalement abdiquer, céder. Voilà la conséquence, il cache sa face. Cinquième conséquence qu'on trouve dans la parole, quand on pêche, ça produit des privations. Jérémie chapitre 5 verset 25, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, ce sont vos péchés qui vous prive de ses biens. Et si vous lisez le contexte de ce passage, il s'agit de biens matériels, c'est-à-dire l'abondance, la nourriture, le vêtement, etc., la vie pratique, on va dire, Jérémie 5, 25. Tandis que Romains 3, 23, il s'agit d'être privé de biens spirituels. Vous avez les deux aspects, privé de biens matériels, privé de biens spirituels. Romains 3, 23, car tous sont péchés, et sont privés de la gloire de Dieu. Privation. Satan utilise le mensonge pour faire croire qu'en péchant, on va être plus heureux. Il nous dit, affranchissez-vous de Dieu, libérez-vous, vous serez plus heureux, vous serez bien, vous serez épanoui. Et il nous ment. Et des chrétiens faibles, fragiles, se laissent influencer. Et malheureusement, Satan se déguisant en ange de lumière, bien, il fait croire bon ce qui est mauvais. Et en fait, beaucoup sont liés après dans le péché. Péché, au contraire, n'est pas une source d'épanouissement. La Bible nous dit c'est le contraire, c'est une source de privation. Quand nous péchons, nous nous privons de bien des bénédictions. Bénédictions matérielles, on l'a dit, famine, dans le texte, hein, il est question de famine, de disette, de peu de fruits. Et le Seigneur ne bénira pas dans ceux qui persévèrent dans le péché. Et puis, pas de bénédiction spirituelle non plus, donc pas accès à la gloire de Dieu. Pas accès à des expériences spirituelles profondes, renouvelées dans la communion avec Dieu, une privation de la présence de Dieu. Sixième conséquence du péché, le péché nous rend esclaves. Jean chapitre 8, verset 34, c'est Jésus qui parle. « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Le péché donc nous avilit. Le péché fait de nous des êtres serviles, soumis à Satan. Et bien nous en sommes conscients. Le péché va avoir une forme de lien invisible sur nous qui va faire que par nos forces on voudrait s'en sortir, mais on n'y arrive pas parce que le péché est plus fort. On a un bel exemple dans la parole de ce niveau-là, c'est Samson. Samson avait une force extraordinaire pour se libérer des liens. Il avait été entouré de sept cordes et il les a éclatés sans problème, mais il y avait un péché dans son cœur qu'il n'a jamais résolu. Il avait un problème d'instabilité émotionnelle par rapport aux femmes, etc. Il a cédé à un péché, et c'est ça qui l'a lié finalement à la fin. Lui qui avait de la force surhumaine, bien, il s'est laissé piéger par Satan, et il est devenu un esclave qui tournait la meule dans la prison, lié par son péché. Le péché, donc, ça va être comme une drogue qui va créer une accoutumance et qui va nous lier. Vous avez vu comme les gens drogués, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il leur faut vraiment du secours, de l'aide. C'est pareil pour le péché. Satan nous dit, vous serez libres. Mais en fait, c'est pour mieux nous asservir et faire de nous des esclaves. Dieu n'a pas prévu pour nous une vie d'esclave ce matin, mais une vie d'enfant de Dieu, libre du péché. C'est une autre position que nous devons avoir. Mais à chaque fois que nous péchons, bien, nous risquons de redevenir esclaves de Satan. En septième conséquence du péché, le péché nécessite un châtiment de la part de Dieu. Dieu ne laisse pas impuni le péché. Lévitique chapitre 26, versets 27 à 28. « Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, c'est Dieu qui parle, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés. » Donc Dieu a dit à son peuple, « Je vous châtierai pour vos péchés. » Exode 20, chapitre 5, « Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc Dieu, là aussi, va juger, va condamner, il punit, nous dit ce texte, sévèrement l'iniquité. Le péché ne peut donc pas rester impuni, Dieu ne va pas laisser comme cela les choses, parce que Dieu est juste et il rend des comptes à chacun. Devant Dieu, donc, un jour ou l'autre, nous serons tous devant Dieu et nous n'aurons rien à répondre. En fait, le film de notre vie va être dévoilé et tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait sera divulgué et la sentence va tomber, coupable, vous avez péché. Alors il y a deux possibilités, soit nous n'avons pas accepté le Seigneur et la condamnation viendra, c'est la mort éternelle, nous serons séparés de Dieu pour l'éternité, quelque chose de terrible. Soit nous avons accepté Jésus sur cette terre, et la sentence qui tombera, c'est acquitté. C'est-à-dire, nous n'aurons pas à payer la mort éternelle pour nos péchés. Mais quelqu'un l'a fait pour nous auparavant, c'est Jésus. Quelqu'un de bien plus riche que nous a payé notre dette, c'est Jésus, puisqu'il est Dieu. L'œuvre de Christ à la croix, c'est ça. Christ a pris mon châtiment, il a payé ma dette, ainsi je peux avoir accès au ciel sans rien payer, en fait, gratuitement, c'est la grâce. La grâce de Dieu a un coût toujours. Mais ce n'est pas nous qui pouvons le payer, c'est Jésus qui l'a payé à la croix pour nous. Béni soit son nom. Aucun homme ne pouvait le payer. Si Jésus n'avait été qu'un homme, on pourrait dire que ce n'était pas suffisant. Mais Jésus était Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Donc la justice de Dieu est pleinement satisfaite. Huitième conséquence du péché, c'est la mort. Deutéronome chapitre 24, verset 16. C'est peut-être l'élément qui revient le plus dans la parole par rapport au péché. Comme conséquence, la mort. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Donc c'est déjà annoncé. Bien, le péché mérite la mort. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, dit Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Puis un autre texte, Romains 6, 23, bien connu, car le salaire du péché, c'est la mort. Et il y en a encore d'autres, Éphésiens 2, 1, Colossiens 2, 13, etc., qui nous montrent tous, vous étiez morts dans vos péchés, le péché mérite la mort, etc. La conséquence ultime de nos péchés, c'est la mort. La mort éternelle. C'est une réalité que nous ne pouvons pas vraiment mesurer sur cette terre, parce que nous, on vit qu'un temps sur cette terre, et puis dans le ciel, c'est l'éternité. Et puis, on ne peut pas se rendre compte de la souffrance qu'il y aura en enfer. Les seuls éléments qu'on a dans la parole, c'est cette explication de Jésus avec un jour l'homme riche et Lazare qui meurt. Lazare qui va auprès de Dieu, qu'il est dans la paix, il est dans un moment de bonheur et de félicité, tandis que l'homme riche qui a péché, qui n'a pas accepté Dieu dans sa vie, il va en enfer. Et c'est là les éléments qu'on a. On voit quelqu'un qui souffre dans la flamme, qui se rappelle de son passé, donc qui est conscient. Quelqu'un qui a envie de sortir de là au plus vite, mais qui ne peut pas parce qu'il n'y a aucun moyen de passer de l'enfer au paradis. Quelqu'un qui voudrait retourner sur terre pour annoncer la bonne nouvelle. Enfin, c'est un lieu où on est bloqué, c'est un lieu de feu éternel, un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, dit Jésus. Donc on ne peut pas vraiment le réaliser puisque c'est éternel, ça ne finira jamais, c'est quelque chose de terrible. Avec Jésus, il y a donc une promesse de vie d'abondance, une vie éternelle au paradis. Et si nous n'avons pas Jésus, ben, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est une vie sans Dieu pour l'éternité et une vie en enfer. Donc le choix est possible ici-bas, sur cette terre, mais c'est à nous de le faire. Faire le bon choix ce matin.